What is this, Connor? Easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded, sir.
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che dice? Come fa che dice?
Cinéphile, féministe, homosexuel, Gérard Depardieu, d'Ardèche et de l'Univers, bienvenue. Vous êtes sur Fréquence 7 et vous écoutez Cinémascope, le magazine du cinéma en Sud-Ardèche. Comme toujours, nous sommes en délicieuse compagnie, mais réduite aujourd'hui, avec Cathy. Bonjour Cathy.
Bonjour Sophie.
Et Mathieu.
Salut.
Et Sylvain à la réalisation.
Bonjour à vous.
On salue Olivier qui nous parlera peut-être vendredi prochain du bleu du caftan qu'il a vu cette semaine. Salut à toi Olivier. Aujourd'hui, on va parler des films Umami avec Mathieu, quand même un peu du bleu du caftan que j'ai vu. On parlera également de Dans les bois avec Christine Roure de la médiathèque de Montpezat que nous aurons par téléphone. Bonjour Christine. Bonjour.
Bonjour à toute l'équipe.
Je vous prends de court. Et on parlera aussi de We Are Coming, chronique d'une révolution féministe de Nina Faure qui sera projetée à Barjac mardi prochain. Et on aura par téléphone préenregistré Lara du collectif Boucan. Mais avant, Cathy, qui s'est fait une petite semaine à la croisette, nous revient avec son palmarès à elle.
Bah, mon palmarès à moi, je crois qu'il est assez unanime. Enfin, si on regarde un peu la presse, je me suis amusée à regarder la presse avant de venir. Et c'est vrai qu'on est quand même un petit peu focus sur certains films. Alors après, évidemment, on verra ce que ce jury, et notamment le président du jury, qui est Ruben Östlund, donc c'est celui qui a gagné la Palme d'Or l'année dernière, qui aime un cinéma quand même osé, moderne, dynamique. Bon, est-ce qu'il va aller à l'opposé de ce que lui réalise, ou plutôt aller vers ce qu'il a l'habitude de faire? On peut imaginer qu'il va aller un peu à l'opposé. Mais nous verrons. Le résultat sera là demain. Et oui, moi, les deux films dont je voulais parler, et puis après deux autres plus rapidement, mais le premier, c'est The Zone of Interest, qui est un film de Jonathan Glazer, qui est un réalisateur britannique qui n'a pas fait de film depuis 10 ans. Son dernier remonte à 2000.
Est-ce que c'est pas lui qui avait fait Under the Skin ?
Exactement, c'est ça. Bravo.
Étrange, très fort. Ce film.
Oui, très étrange. Un film de SF avec Scarlett Johansson, avec un vrai univers, quoi. Film assez incroyable.
Génial.
Est génial, et il faut pas du tout le pitcher, enfin,
non,
parce que sinon après on tue l'histoire, mais c'était vraiment un film hyper fort. Et donc là il fait assez fort aussi parce que l'histoire raconte une famille de nazis, met en scène une famille de nazis dont leur petite havre de paix, mais qui jouxte le camp de concentration d'Auschwitz. Donc en fait, on est à la fois avec cette famille, mais qui a des aspects, bon, enfin voilà, qui préserve justement son petit havre de paix, qui cultive son jardin, qui reçoit des amis, qui essaie d'être plus ou moins avenant avec leur servant. Et à côté, on entend, on voit. Ce qui se passe dans le camp, mais sans, enfin, on le voit pas, mais je veux dire, on voit par exemple la cheminée, le feu dans la cheminée, enfin, qui brûle, donc on imagine ce qui se passe, on entend des cris, on entend des coups de feu, et c'est quand même glaçant comme film, extrêmement bien réalisé, ouais, c'est franchement, c'est certainement un film qui sera au palmarès. S'il a pas la palme, en tout cas, il faut qu'il soit au palmarès, parce que on est sur quand même une proposition de cinéma. Ouais, c'est pas très original de traiter du nazi ou de la Seconde Guerre mondiale, mais de cette façon-là, quand même, ça l'est particulièrement. Donc il y a, y a un sujet, il y a, y a, y a une réalisation simple mais très percutante. Et bon, voilà, je pense que sincèrement, ce film se retrouvera au palmarès. Et le deuxième, c'est le film de Kauter Ben Anya qui avait fait, qui avait été repéré quand même à Cannes avec différents films, dont Le Chalat de Tunis, La Belle et la Meute est le dernier, mais qui n'est pas sorti en salle ou alors de manière, enfin, il devait sortir et je crois qu'au final il n'est pas sorti, mais qui était génial, qui s'appelle L'homme qui a vendu sa peau. C'est une réalisatrice très très talentueuse et là elle réalise un film totalement atypique, on va dire, qui s'appelle Les filles d'Olpha, qui en fait revient sur une histoire tragique et qui a été très médiatisée en Tunisie, d'une mère et ses filles, quatre filles, dont deux sont parties à Daesh et ont fait le choix du radicalisme islamiste. Et en fait, on est à la fois sur du documentaire, puisque c'est cette mère et ces jeunes filles interagissent voilà, avec la réalisatrice, hein, comme si elle préparait le film. Et il y a également des actrices qui vont jouer les deux sœurs qui sont toujours en prison maintenant en Libye. Et une autre mère qui, sur des moments un peu difficiles, va prendre le rôle de d'Olpha, en fait. Voilà.
Donc on est à la frontière du documentaire de la fiction.
On est vraiment sur un film très hybride. Atypique, très hybride, mais très réussi, parce qu'il y a énormément d'émotions. Elles sont magnifiques, à la fois dans ce qu'elles racontent et même physiquement, en fait. Elle est sublime, véritablement. Une façon peut-être de montrer autre chose que l'horreur de ce qu'elles ont vécu. Et bah oui, je pense que c'est un film aussi qui pourrait obtenir cette précieuse palme d'or.
En tout cas, nous donnes envie, hein, d'aller voir.
C'est deux films. Films. Alors, je sais pas du tout quand ils sortent. Ouais, voilà, c'est toujours un peu Cannes. Mmh. Il faut que Cannes passe. Mmh. Et là, les distributeurs en général, bon, certains ont posé des dates, mais en fonction du palmarès, ça peut très bien changer. Et c'est après Cannes qu'en général, les distributeurs revoient leur line-up et revoient un petit peu les sorties des films. Les deux autres qui sont quand même assez fortement aussi palmables, c'est Anatomie d'une chute, je vais arriver à le dire, de Justine Triet. Donc Justine Triet, c'est la réalisatrice de La bataille de Solferino, de Victoria avec Virginie Efira et Sibyl aussi avec Virginie Efira. Là, elle est sur un registre assez sombre sur la radiographie d'un crime au sein d'un couple. Elle a fait ce scénario avec son compagnon qui est Arthur Harari, qui lui-même a contribué à un très bon film qui est à Cannes aussi, mais à la quinzaine des réalisateurs, qui s'appelle Le procès Goldman de Cédric Kahn. Je vous en ai parlé, je crois, hein, il y a 15 jours. Et c'est assez brillant. Franchement, c'est aussi une réalisatrice qui est... à suivre, enfin en tout cas qui risque d'être au palmarès. Et enfin le dernier, qui est un peu le régional de l'étape, on va dire, c'est Ken Loach avec The Old Oak, le vieux chêne, parce que ben il est maître dans le cinéma social et britannique, là, avec une histoire d'humanisme encore entre des habitants d'une petite ville encore dans le nord de l'Angleterre qui accueille des réfugiés syriens. Et le film offre un regard un peu nuancé sur les rapports qu'il peut y avoir entre les habitants et voilà, et il le fait très très bien. Donc bon, est-ce qu'il aura une troisième palme d'or, notre cher Ken Loach? Ce sera à suivre demain soir.
À suivre demain soir. Bah, merci beaucoup, Cathy, de nous avoir fait partager ces coups de cœur. Merci à toi.
De rien, merci à vous.
On continue avec la critique de film et on commence très fort.
J'ai pas d'héritier.
Oh, envoyez les poissons là!
Rien.
Faut qu'on retrouve notre talent, merde!
Qu'est-ce que tu fais?
Elle va sucer la courge de son critique!
Pauvre connard!
Je suis foutu. La prends ta retraite?
Déplacer ce corps, là, c'est toute une histoire.
Eh ben, déplace ton esprit.
Hôtel. Umami de Sloane Sau avec Gérard Depardieu, Sandrine Bonner, Bastien Bouillon notamment. Alors Mathieu, tu es allé le voir. J'allais pas dire malgré des critiques de la presse et du public qui, on va dire, ne l'encensent pas. Toi, tu y allais de manière naïve, ouais. Complètement pure.
Décontractée.
Et que s'est-il passé ?
Eh ben, il s'est passé un très bon moment en salle. Alors, on n'était pas très nombreux, mais du coup, l'avantage, c'est que j'ai pu discuter avec les deux autres spectateurs qui étaient avec moi. Et je crois qu'on a ressenti à peu près la même chose dans le film. Donc, j'y suis allé pour, ce film de donner envie, le côté Japon, le mélange avec Gérard Depardieu, le côté gastronomique. Je n'avais pas vu la bande-annonce, donc vraiment, j'y suis allé parce que, Gérard Depardieu est l'affiche. Comme je disais, je n'avais vu aucune critique et j'ai beaucoup aimé l'expérience. Alors, pour un peu contextualiser, c'est l'histoire de Gabriel, donc joué par Gérard Depardieu, qui est un chef étoilé très reconnu, mais alors vraiment reconnu, hein, c'est vraiment la crème de la crème. Sa santé, sa motivation, sa vie de famille se détériorent. Alors, il décide de partir à l'autre bout du monde, au Japon, et retrouver un chef japonais qu'il avait rencontré 40 ans plus tôt, et ce chef japonais avait remporté le Grand Prix gastronomique. Oh. Et Gabriel avait fini deuxième. Et donc, le japonais dont j'ai plus le nom dans le film avait fini premier. Alors, pourquoi il décide d'y aller ? C'est un moment... quand le film a commencé, je me suis dit, ce film va me plaire. Pourquoi ? Parce que ça commence comme un conte, déjà. Les films japonais ont une certaine poésie que j'apprécie beaucoup, que ce soit dans les films d'animation, les plus connus, on peut citer Ghibli ou autre, mais là, de voir Gérard Depardieu dans un conte japonais qui reprend un peu sa propre histoire, dans le sens que quand le début du film commence, la voix off japonaise décrit donc le personnage de Gabriel, on pourrait croire qu'il fait une description de Gérard Depardieu, mais... c'est complètement méta, quoi. On y est, c'est presque documentaire. Et je me dis, waouh, dans quoi je me lance ? Ça va être complètement fou. Et pour moi, ça l'a été. Après cette séance, j'ai regardé les critiques. De grand passionné que je suis de cinéma, j'aime bien un peu savoir ce que le monde en a pensé. Et j'ai été surpris de voir à tel point il a été rejeté. Alors pourquoi ? Et en fait, je pense pas avoir été influencé par ces critiques maintenant en disant ça, mais ça m'a un peu ouvert les yeux. Commençons par les choses qui sont dérangeantes, parce qu'il y en a. Par exemple, dans ce film, il y a beaucoup trop de personnages, beaucoup d'histoires qui s'entremêlent, à tel point qu'on pourrait même en faire une série. Vraiment, il y a beaucoup d'histoires, donc les personnages n'ont pas le temps d'être développés. On pourrait croire que du coup, l'affect est beaucoup moins fort. Ensuite, niveau image, photographie, la lumière, même la mise en scène, en fait, ce qui est vraiment du point de vue cadrage cinéma, on est sur du basique, pourtant ça se passe au Japon, ça aurait pu être beau, mais des fois on frôle entre l'amateurisme dans le fait de... On sent qu'il voulait faire la caméra à épaule par exemple, mais ça fait assez brouillon, contrairement au plan d'après où ça va être trop propre. C'est un peu bizarre. Ensuite, il y a des fois des aberrations qui me font sortir du film. À un moment, je me suis dit, mais c'est une volonté artistique, c'est pas possible. On a... quelqu'un qui parle dans une marche, ceux qui ont vu le film peut-être comprendront quand ils vont m'écouter, il marche et d'un coup on a l'impression que la personne qui parle avec l'autre personne est une voix off. La voix change parce que c'est une voix qui a été réenregistrée en studio. Ça se sent. Et quand c'est mal mixé, directement, alors je me dis, mais c'est pas possible. C'est...
Non, mais tu me fais rêver, Mathieu. Mais en fait, je pense que t'es un poète. Et toi, tu prends tous ces signes et tu les sublimes et t'en crées ton propre cinéma. Je crois que peut-être ce type de film ne plaît qu'au poète. Hein. Ou mamie.
Non, mais je pense qu'en fait, t'as fait une bonne transition parce que pourquoi je dis tout ça ? Parce que justement, j'ai été complètement pris dans ce film. Ça, c'est des choses que j'ai pris conscience une fois avoir lu les critiques, presse, etc. Mais en fait, ce film m'a carrément ému. Alors, on parlait que les personnages n'ont pas été développés. Mais en fait, je trouve qu'il y a une justesse dans la... le réalisateur savait très bien qu'il y avait beaucoup de personnages. Il savait qu'il n'avait pas le temps de développer tout ça en une heure et demie. Mmh. Mais il le fait d'une justesse à ce que Gérard Depardieu ne prenne pas toute la place. Il aurait pu, dans un film comme ça, c'est lui qui porte le film. Hein. Mmh. Mais les autres sont à une place qui est aussi importante parce qu'ils contribuent à l'histoire de ce voyageur qui est Gabriel dans le film. Et ça m'a captivé. C'est l'essence même du voyage, la folie du voyage. Quand même, Gérard Depardieu va partir rencontrer un ami, une connaissance qu'il n'a pas vue depuis 40 ans. Il ne sait même pas ce qu'il fait dans sa vie. C'est vraiment un coup de folie pour découvrir ce qu'est l'umami. L'umami, c'est, moi je ne savais pas avant, mais d'après ce que j'ai compris, c'est un ingrédient japonais fait à base de graisse de porc, etc.
L'umami, c'est une saveur qui va démultiplier les saveurs déjà existantes. C'est-à-dire qu'on mange quelque chose, par exemple, d'un peu gras, sucré, avec de l'umami. C'est ce qu'on appelle, dans les plats industrialisés, on rajoute du glutamate.
Ouais, d'accord. Voilà. Okay.
Du glutamate de sodium, et ben c'est ce glutamate qui va révéler, en fait, ça booste les couleurs, les couleurs du goût, quoi. C'est vraiment ça, quoi.
Et du coup, le film a réussi. Ils le savent très bien parce que quand Gérard Depardieu, en tout cas dans le film, le personnage Gabriel explique ses motivations, tout le monde rigole. Hein, dans le film, tout le monde dit mais il est fou ce Français, n'importe quoi quoi. Et Gabriel sait que il est dans la folie, mais ça va. Des fois, les choses les plus belles qui arrivent dans la vie se font sur des petits coups de folie comme ça. Et ce film le montre très bien, d'une justesse rarement vue, avec peu de moyens. Et voilà, c'est les rencontres, c'est l'espoir, c'est la peur de l'échec, c'est le fait de se laisser aller comme le personnage Gabriel est introduit, la voix off commence en disant qu'il a grossi, qu'il se laisse aller. Et on est là en se disant, mais ouais, moi aussi j'ai envie de me lancer dans un délire comme ça. Il y en a qui cherchent l'arbre généalogique de leur famille, il y en a qui cherchent à percer le secret des forêts dans le monde, il y en a qui, ça part de ça, ce postulat, et... ça donne envie de faire un petit coup de folie et de partir loin pour découvrir quelque chose qui nous sort de l'ordinaire. Juste pour ça, bravo.
Voilà. Ouais. Expérience métaphysique de Mathieu à la projection de ce film. Merci Mathieu. Donc, ça m'a presque donné envie d'aller le voir. Et moi aussi, faire cette expérience, il faut que je me laisse aller et que je ne réprime pas mes accès de folie. Donc, Umami qui est à voir à Ruyons et à Aubenas cette semaine. On fait un virage à 360 degrés avec le prochain film.
Prendra le secret d'un. Le Kenzoin. Marhaba.
Attendez, je vais faire ça aujourd'hui. Je
vais vous dire que vous avez fait un marhaba dans la ville.
مينا خاصك تعود تدوسي
ما كاين لا شراك عارف.
Le bleu du caftan de Mariam Touzani avec Lubna Azabel, Saleh Bakri, Ayoub Missioui, pardon, je les cite parce qu'ils sont formidables. Le bleu du caftan, alors tout en nuance, il y a moins ce grain de folie ou alors il est vraiment très subtil. Alors c'est un film pour le coup qui a de très très bonnes critiques, que ce soit de la part de la presse, de la part du public. C'est un film et à raison, et pourtant j'ai une petite retenue. C'est vraiment un film donc tout en nuance, en délicatesse, en retenue, mais peut-être un peu trop pour moi. Ce que je me suis dit après la séance, mais ça fait quelques jours que je l'ai vu, et ce film continue de faire son œuvre en moi. Alors, qu'est-ce que ça raconte, pour remettre les choses en place? On est dans la Médina de Salé, au Maroc, et on suit Halim, qui est un maalem, c'est-à-dire un maître tailleur de caftan, dont le savoir-faire traditionnel se perd. Et d'ailleurs, il y a toute une partie du film autour de ça. Hein. Et il est marié à Mina depuis très longtemps. Il vit une histoire avec elle qui est fusionnelle, complice, mais sans désir. Parce que, pour lui, le désir est ailleurs. Halim est homosexuel. On est au Maroc, et évidemment, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas, il n'en parle évidemment pas au sein du couple. Et il y a deux événements qui vont déclencher la mise en chemin de ces protagonistes. C'est la maladie de Mina, Donc on peut imaginer un cancer, et l'arrivée d'un jeune apprenti. Alors dans ce film, on ressent vraiment l'enfermement du huis clos, du non-dit, des non-dits. Les personnages parlent peu, tout se passe à travers les regards, à travers le toucher. Il y a une économie de moyens, une épure. Les plans sont très resserrés sur les visages, sur les mains qui touchent, qui caressent des tissus, puisque c'est aussi un film, je vous dis, sur voilà, ce métier qui se perd. Alors, on pourrait faire toute une critique là-dessus. Mais donc, le cadrage serré, je trouve ça intéressant. En fait, pendant la première heure, je me suis dit, c'est super intéressant parce que ça densifie vraiment. On est dans la présence. On n'est pas dans un film d'action. Il se passe vraiment... Tout est plus... On essaie de capter la caméra de la réalisatrice, essaie de, vraiment de capter ces moments, voilà, qui se transforment. Alors, j'ai trouvé ça formidable à la première heure et peut-être un peu trop systématique après. C'est-à-dire que ça, pour moi, ça, c'est, presque une, c'est presque trop posé, pas assez souple. Et alors là, je pense que je vais faire hurler pas mal de gens. Moi, j'ai pas forcément ressenti la sensualité. Peut-être parce que précisément, c'est une sensualité qui est nostalgique de la part d'Alim, qui est lui aussi comme un poète, parce que c'est un homme pur. C'est d'ailleurs ce que lui dit sa femme à un moment donné. Toi, tu es l'homme le plus pur que j'ai jamais rencontré. C'est un homme pur qui veut préserver, qui veut aller jusqu'au bout, qui donne tout pour son métier, qui donne tout pour sa femme qui est malade, qui se sacrifie. C'est impur, quoi. Et donc, il est dans cette sensualité nostalgique de ce métier de maître tailleur qui disparaît, et aussi d'une nostalgie d'un monde qu'il ose à peine caresser, qui est le monde de l'homosexualité, qui, voilà, c'est un monde qui n'est pas encore advenu. Je pense qu'il est dans la nostalgie d'un monde qui n'est pas encore advenu. Et donc, tout ça, confère encore plus ce côté retenu de la sensualité et de tout. Mais peut-être que c'est la forme qui épouse complètement le sujet, et peut-être que justement, c'est complètement... réussi à ce niveau-là. Alors bien sûr, on aborde le thème de l'homosexualité masculine, hein, dans un pays où elle est encore réprimée, je le rappelle. L'homosexualité au Maroc est répréhensible de 3 ans, enfin de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement. Et alors justement, avec ce film pudique, il n'y a pas de scène explicite, peut-être que la réalisatrice va permettre d'ouvrir le dialogue, et déjà peut-être va-t-il été, mais alors j'ai pas vérifié, s'il va pouvoir être projeté au Maroc. En tout cas, il est soutenu par le Fonds cinématographique du Maroc. Au début, je me suis dit, ah bah quand même. Donc il y a peut-être des choses là qui vont bouger. Mais pour moi, c'est surtout une magnifique histoire d'amour avec sa femme, Mina, qui comprend les choses petit à petit, et c'est tout son parcours, petit à petit elle va l'accepter, et elle va permettre, en fait, elle va permettre à son mari que ça puisse exister. Et je trouve ça vraiment formidable et magnifique, et en même temps, il y a cette histoire d'ouverture à la vie d'Alim, alors que elle, qui est condamnée par la maladie, eh bien forcément, son destin, il est tout tracé. Et ouais, c'est, alors on dit, ça fait un peu lieu commun, une histoire de vie et d'amour, mais c'est vraiment là que tout se noue. Et il y a notamment une scène magnifique de danse à trois, parce que c'est aussi une histoire d'amour à trois, avec donc le tailleur, qui est le jeune tailleur, et ses regards là avec le jeune tailleur qui sont très très beaux. Donc il y a beaucoup de moments, et je parle de ce film, et voilà, je lève peut-être toutes les retenues que j'avais en parlant, parce que c'est quand même un très très beau film. Alors c'est voilà, cette retenue, c'est peut-être même le sujet du film, hein. J'aurais aimé que ça soit un peu plus fluide, mais c'est quand même un film qui marque, comme je vous dis, moi c'est, il continue de me poursuivre. Alors peut-être que l'ami Olivier en parlera la semaine prochaine, puisque c'était le film qu'il avait vu cette semaine. Mais voilà.
En tout cas, ça donne vraiment bien envie de le voir, quoi, parce que il se dégage, j'ai l'impression qu'il y a un message très fort, comment dire, ça a l'air d'être un film rempli d'amour, quoi.
C'est un, ouais.
Et qui qui donne espoir sur plein de choses. Je ne l'ai pas vu, donc difficile de poser les mots. Tu en as parlé assez généralement et avec tellement de passion, sans en dévoiler l'histoire précisément. Mmh. On sent que c'est un sujet qui t'a touché et en même temps que tu laisses le spectateur le découvrir, quoi. Et ça donne d'autant plus envie de voir ça.
Oui, oui, ouais. Oui, mais c'est une expérience. C'est une expérience. On chemine avec les protagonistes. Mmh, mmh. On chemine. Donc c'est à voir cette semaine ou ça, je ne sais plus. Oui, à Aubenas et Auvence. On va continuer. Alors là, c'est une autre immersion dans un tout autre univers. Mais où sommes-nous ? Christine Roure, responsable de la médiathèque de Montpezat, vous êtes là ?
Oui.
Prête à nous parler de cette immersion. Alors, où nous sommes ?
Nous sommes dans une ou plusieurs forêts primaires de Lituanie, mais qui ressemblent beaucoup aux nôtres.
Nous sommes donc dans les bois, c'est le titre, hein, c'est le titre du film que vous projetez. Ce soir, c'est ça ?
Tout à fait, à 18h ce soir, à la médiathèque municipale.
Dans le cadre de la fête de la nature. Alors parlez-nous un peu de ce film.
Alors ce film, c'est un film documentaire, puisqu'il faut le classer quelque part, mais en même temps un peu spécial, un peu hors norme. Il a eu énormément de prix du fait de son originalité et de son authenticité, c'est-à-dire qu'il est... On est vraiment, comme vous l'avez dit, on vit une totale immersion dans le milieu naturel, au milieu des animaux. Le réalisateur est photographe. Au départ, il a travaillé avec les plus grands réalisateurs ukrainiens et autres, comme Serge Lonitsa. Et il a une quarantaine d'années et son grand souhait, c'était de faire un film dans une forêt qui disparaît, ces forêts primaires qui sont menacées, comme on le sait, et de filmer au plus près de la vie sauvage. Donc, c'est un spécialiste, hein, il a étudié la biologie, en plus d'être photographe, caméraman, et il lui a fallu 8 ans de travail pour ce documentaire. Mmh. 8 ans de travail pour repérer, pour s'imprégner, pour fabriquer les matériels qui va lui permettre
d'approcher
de filmer,
le plus possible,
voilà, sans animaux. Que les animaux ne le perçoivent ou ne l'entendent. Donc voilà, il a fallu 4 ans pour cela et 4 ans pour le filmage. Donc il y a des scènes acrobatiques, des performances à tout bout de champ, c'est-à-dire que il est resté, je crois, soit plus de 60 heures dans un arbre pour filmer des chouettes ou des hiboux sans descendre. Et dans des conditions difficiles où, évidemment, ce film balait les saisons, donc même en hiver. Mmh. Et en hiver, d'ailleurs, il portait 64 kilos sur le dos. Donc voilà, c'est quand même une performance à tous les niveaux, ce film.
Avec une magnifique bande son. On a entendu un petit peu, là, à travers quelques secondes de la bande-annonce. Voilà, il a capté, effectivement, tous les sons qui finalement nous font voyager, hein. C'est pour ça qu'on fait de la radio d'ailleurs. C'est vraiment les sons qui vont ouvrir l'imaginaire. On est vraiment en présence de tous les animaux.
C'était son objectif, il voulait... c'est vrai que les animaux s'expriment, hein, c'est leur manière, ils chantent, ils crient, ils expriment leur joie, leur frustration, en fait, tout ce qu'on veut. Ils peuvent même écrire, nous dit Vinciane Després, ce philosophe, mais du coup, ça exclut la présence humaine, enfin, du commentaire off, comme on le voit trop souvent dans des documentaires animaliers, ou même de la musique. Donc on est vraiment immergé, on est vraiment au cœur des bois.
Mmh. C'est ce soir, donc, à la médiathèque de Montpezat à 18h. Vous avez un mot à rajouter, Christine ?
Un mot à rajouter ? Écoutez, je pense qu'il y aura du monde déjà et qu'on va pouvoir en discuter longtemps après, parce que c'est un film qui laisse des traces. Et que, surtout, je vous dis, c'est un écho aussi à ce que nous, on vit dans nos forêts. Bon, en dehors de l'élan et du bison, tout le reste, plus ou moins, et le tétralyre, bien sûr, qui est en voie de régression. On a tous ces animaux, mais on ne les voit pas de cette manière par laquelle ils sont filmés.
Mmh. Eh bien, écoutez, en tout cas, on vous remercie pour cette initiative et je rappelle effectivement qu'à la médiathèque de Montposa, il se passe plein de choses. On a déjà eu l'occasion ici d'en parler, que ce soit au Cinémascope ou dans l'Onde Curieuse, dans nos agendas culturels, de ce que vous proposez, que ce soit en termes de rencontres, de cinéma aussi. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui s'y passent. On n'a plus beaucoup de temps, Christine, donc c'est là-dessus qu'on vous laisse, mais merci encore de nous avoir parlé et donné envie de voir ce film qui s'appelle Dans les bois, ce soir à 18h à la médiathèque de Montpezat. Merci encore.
Merci à vous.
Allez, on termine avec une autre ambiance encore.
Pourquoi donc les femmes jouissent-elles moins souvent que leurs mecs ?
Je peux dire que c'est grâce à ces filles-là, avec qui j'habitais, que le féminisme est vraiment entré dans ma vie. C'est aussi là qu'on s'est rencontrées avec Yelena. Elle et moi, et plein d'autres. En fait, on avait vécu presque une révolution.
Mais bon, quand même, les moments où on a l'impression le plus d'avoir aboli le patriarcat, c'est quand on est en vacances entre meufs.
On s'est mise à organiser des groupes de parole.
J'étais plus investie dans leur plaisir que dans le mien, quoi.
Je ne savais pas comment c'était, parce qu'on n'en a jamais parlé.
Mais s'il n'y a pas pour les femmes, il y en a que pour les hommes, c'est méchant.
Moi, j'étais super enthousiaste, mais Yelena, elle se demandait si mieux connaître nos corps, ça allait suffire à résoudre tous les problèmes qu'on avait commencé à soulever.
On part non pas en vacances avec ces jeunes femmes, mais on part à Barjac. Et c'est Lara Perret de l'association Boucan qui nous parle d'une ciné-rencontre qui aura lieu mardi 30 au cinéma de Barjac. Donc, bonjour Lara.
Bonjour, donc il s'agit d'une soirée de projection du film We Are Coming, qui est un film documentaire réalisé par Nina Faure. Voilà. C'est un film qui est projeté déjà depuis plusieurs mois un petit peu partout en France. Il a été notamment projeté en avant-première par le festival Itinérance à Alès, un petit peu avant le démarrage du festival, au mois de mars, du coup. Et nous, on était à ce moment-là avec l'association Boucan, présente sur le Ciné Planète d'Alès, pour un autre festival qu'on a organisé, nous, qui s'appelle le Ciné Boucan. Et donc, on a accompagné ce film qu'on a beaucoup aimé. Et on a eu envie de le faire projeter aussi sur Barjac. Voilà.
Qu'est-ce que ça raconte ?
Alors, c'est une chronique féministe. Donc, c'est deux amies, deux femmes trentenaires qui se racontent entre elles leur cheminement de féministe sur ces 10-15 dernières années, du démarrage un peu de leur rencontre et de leur rencontre entre elles et avec le féminisme. Ça part d'une volonté de comprendre comment ça se fait que nous, les femmes, on connaît si peu la question du plaisir, du désir, on a une si mauvaise connaissance de notre sexe et de notre sexualité. Et donc, elles partent sur des groupes de parole. Et puis ensuite, ça part dans tous les sens. Et notamment, ça part beaucoup sur de la recherche, sur quelles sont les luttes féministes aujourd'hui, quelles sont... Voilà.
Et donc, vous, Association Boucan, qui êtes-vous ? Vous êtes une association de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'est comme ça que vous vous définissez ?
C'est ça, de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, l'inceste et les inégalités femmes-hommes. Mmh. On est une jeune association, on a décidé de créer cette association l'année dernière, à l'automne, et puis elle a vraiment pris naissance en tout début d'année. Et notre première grosse action, c'est ce fameux festival Ciné Boucan qui a duré 8 jours autour de la journée de lutte internationale pour les droits des femmes du 8 mars. Mmh. On agit dans plein de champs différents, dans l'idée de faire de la sensibilisation sur ces thématiques au niveau du grand public par de l'accompagnement culturel et artistique. On veut agir au niveau éducatif en intervenant auprès des enfants et des adolescents pour faire de la prévention. Directement dans les établissements scolaires et dans les centres sociaux. Et puis on veut former et permettre à des professionnels de bénéficier d'aide, de soutien et d'analyse des pratiques sur ces questions-là. Voilà, donc les professionnels du monde éducatif, du soin, de l'enseignement.
Et pendant pour cette soirée de mardi 30 mai, qu'est-ce que vous attendez ? Donc il y aura un débat. Est-ce que c'est des questions qui divisent encore ?
Oui, je pense. Après, je trouve que le film est très habile. Il rassemble beaucoup, en fait. Et la réalisatrice, elle insiste beaucoup sur la pluralité des modes de lutte et sur comment, en fait, tous ces modes de lutte-là, rassemblés ensemble, servent à quelque chose et qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Donc, moi, je suis pas sûre que ça enclenche forcément un débat avec beaucoup de divisions au sein du public. Nous, en plus, on est plutôt sur un créneau où l'idée, c'est d'échanger, de parler de ce que ça nous fait, de ce à quoi ça nous fait penser. Mais l'idée, c'est pas forcément que les gens s'écharpent après le film. Et en plus, vraiment, le ton est donné par la réalisatrice et il est plutôt un ton émancipateur et rassembleur. Voilà.
Ok, super. Eh ben, on en discute tranquillement mardi 30 mai à l'issue donc de ce film We Are Coming, chronique d'une révolution féministe. Merci beaucoup Lara de nous en avoir parlé et à mardi.
À mardi, merci beaucoup.
Voilà, on a voyagé dans plein d'univers différents. Et c'est ici que se termine le Cinémascope avec Mathieu qui est encore là, Mathieu.
J'ai survécu, je suis là.
Mathieu, mais n'oubliez pas, Mathieu est un être étrange. Il a kiffé Umami. C'était pour lui une expérience métaphysique, philosophique de dissociation de je ne sais pas quoi. Donc Umami, vraiment, si vous allez le voir, pensez à Mathieu. Et exact. Vous pouvez nous écrire ou sur Facebook ou nous appeler pour dire ce que vous avez pensé du film. Merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau Cinémascope. D'ici là, bon film.
Salut.